Voici maintenant le journal des Amériques et d'Haïti en compagnie d'Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, la journée internationale des droits de la femme avec un reportage au Pérou dans un centre d'accueil pour femmes violentées. Et puis en Haïti, on verra comment le contexte actuel de soulèvement populaire encourage la libération de la parole chez les femmes. Dans la revue de presse, on vous parlera de ce qui fait les grands titres aux États-Unis. 4 ans de prison pour Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, condamné pour fraude. Et puis cette coupure d'électricité hier au Venezuela de 8 heures. On vous propose aujourd'hui également cette interview exclusive avec Isadora Zubillaga. Son nom ne vous dit rien, mais elle vient d'être reconnue par Paris comme l'envoyée spéciale de l'opposant vénézuélien Juan Guaido en France. Autrement dit, la France qui a désormais 2 représentants pour le pays, une situation inédite alors que la tension règne entre les pro-chavistes et les soutiens de l'opposition. Une nouvelle manifestation est prévue demain à Caracas. Voilà, un journal 100% féminin aujourd'hui préparé avec Marie Normand et Stéphanie Schuller. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une de votre revue de presse, la condamnation à 47 mois de prison ferme de Paul Manafort pour fraude bancaire et fiscale.
L'ancien directeur de campagne de Donald Trump a été jugé pour avoir dissimulé 55 millions de dollars au fisc sur une 30aine de comptes à l'étranger et pour avoir trompé des banques afin d'obtenir des prêts, rappelle le Miami Herald aujourd'hui. 47 mois de prison ferme, c'est pourtant une peine plutôt clémente. Le Los Angeles Times rappelle que le juge de district T.S. Ellis aurait pu envoyer ce vieux routier républicain âgé de 69 ans, qui est Paul Manafort, dans une prison fédérale pour le restant de ses jours, mais le magistrat a rejeté la peine de 19 à 24 ans réclamée par le procureur en la qualifiant d'excessive.
Et cette décision, Stéphanie, a suscité une vague d'indignation.
Absolument. Les juristes américains dénoncent la peine, je cite, « ahurissante prononcée contre Manafort », titre aujourd'hui le Washington Post qui poursuit. Le cas de Manafort a immédiatement été perçu comme un nouvel exemple de l'iniquité du système judiciaire américain qui fonctionne d'une certaine manière pour un homme blanc, riche et qui bénéficie de nombreuses relations et d'une toute autre manière, bien plus dure, c'est là, pour les accusés indigents, pourtant coupables de crimes moins graves.
Au Mexique, Stéphanie, un tragique accident de la route a tué 25 migrants originaires d'Amérique centrale.
Le camion de fret, à bord duquel voyageaient plus de 50 personnes, s'est renversé sur une route dans l'état de Chiapas, frontalier avec le Guatemala, écrit Milenio. Au moins 29 autres migrants ont été blessés lors de cet accident, dont certains grièvement. Les équipes d'urgence de la Croix-Rouge et de la protection civile ont été déployées sur place. On ne connaît pas encore là où les nationalités des personnes décédées, souligne la Prensa. La procureure générale de l'état de Chiapas a ouvert une enquête pour établir les faits et pour chercher les responsables, rapporte le journal Excelsior. Les premiers éléments semblent indiquer que les freins du camion ont lâché.
Le Fonds monétaire international accorde un prêt de 229 millions de dollars à Haïti.
Oui, le prêt durera 3 ans avec un taux d'intérêt de 0%, explique le Nouvelliste. Ce programme fournira de l'argent pour financer une série de mesures allant de cantines scolaires à des programmes de logements sociaux. La priorité a été donnée à la lutte contre la corruption et au renforcement de la gouvernance, précise encore le Quotidien.
Et pour le gouvernement du président haïtien Jovenel Moïse, cet accord ne pouvait pas mieux tomber, Stéphanie.
C'est le moins ce qu'on peut dire. Anne, dans son éditorial, le Nouvelliste estime même qu'il est la meilleure des nouvelles que pouvait recevoir le gouvernement. Avec cet accord, Haïti a de l'argent frais et l'appui clair du Fonds monétaire international pour recevoir le soutien des autres bailleurs de fonds. On peut déjà tabler sur une stabilisation de la valeur de la gourde et sur un taux de croissance plus appréciable. Et le Quotidien de conclure, quand même sur ce ton un peu moins optimiste, l'embellie financière ne réglera cependant pas tous les problèmes. Les enjeux sociaux, sécuritaires et politiques demeurent.
Voilà, et pour finir, Stéphanie, direction le Venezuela, où une gigantesque panne d'électricité a plongé hier soir presque tout le pays, ainsi que la capitale, dans l'obscurité.
Des milliers d'habitants de Caracas ont dû rentrer à pied chez eux après la fermeture complète du métro, provoquant un chaos sans nom dans les rues de la mégalopole vénézuélienne, constate El Nacional, photo à l'appui. Le régime chaviste, par la voix de son ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, a accusé l'opposition d'avoir saboté le barrage hydroélectrique de Guri, le plus grand du pays. Le ministre de l'Énergie, Mota Dominguez, a affirmé, lui, que le Venezuela était visé, je cite, par une guerre de l'électricité dirigée par l'impérialisme américain.
Et pour le président par intérim autoproclamé, Juan Guaido, c'est la mauvaise gestion du régime chaviste qui est responsable du blackout.
Chaos, inquiétude, indignation, cette panne témoigne de l'inefficacité de l'usurpateur, a tweeté Juan Guaido, cité par El Comercio. Nicolas Maduro a décidé de son côté de fermer les écoles et de suspendre l'ensemble des activités des secteurs privés et publics aujourd'hui, afin de faciliter les travaux nécessaires à la restauration du courant sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a annoncé la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, ce matin sur la chaîne d'État VTV.
Merci Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques.
RFI, les voix du monde.
Voilà, on reste au Venezuela où le gouvernement du président Nicolas Maduro a rejeté l'appel de l'Union européenne à réexaminer l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne à Caracas. Celui-ci a été accusé d'ingérence dans les affaires internes du pays. Au même moment, Juan Guaido tente d'installer des ambassadeurs en Europe. Ils n'obtiennent cependant que le statut d'envoyé spécial. C'est le cas d'Isadora Zubillaga à Paris. Elle estime au micro de RFI, à qui elle a accordé sa toute première interview depuis son arrivée, que sa reconnaissance en tant qu'ambassadrice du Venezuela n'est qu'une question de temps. On l'écoute.
Nous avons posé les bases d'une feuille de route constitutionnelle en trois étapes. D'abord, la fin de l'usurpation du pouvoir par Nicolas Maduro, puis l'instauration d'un gouvernement de transition et enfin des élections libres. La fin de l'usurpation signifie que les ambassadeurs de ce régime illégitime doivent eux aussi partir, parce que les pays ne peuvent avoir deux ambassadeurs simultanément. C'est un fait inédit. Et donc, ce qu'a fait l'Union européenne, la majorité des pays ont fait la même chose, c'est de nous reconnaître comme envoyés spéciaux en attendant de résoudre le problème de ces ambassadeurs, en attendant leur éventuel retrait.
Mientras se resuelve la situación de los actuales embajadores en los distintos países y su eventual retiro.
Les prochains jours, nous allons définir notre lieu de travail. Le processus est irréversible. Nous lançons d'ailleurs un appel à tous les fonctionnaires de ces ambassades. Nous les invitons à reconnaître Juan Guaido pour rester à leur poste, car tous sont nécessaires à leur poste.
Isadora Zubillaga, pourquoi avez-vous été choisie pour représenter le gouvernement intérimaire de Juan Guaido en France ?
Bon, j'ai toujours fait profil bas, mais j'ai toujours beaucoup travaillé pour la cause du Venezuela. Il y a 10 ans, nous avons fondé le parti Voluntad Popular avec le président Guaido et Leopoldo López. Quant à mes liens avec la France, eh bien, j'ai vécu ici, j'ai étudié en France. Et pour moi, c'est un grand honneur, car en plus, la France peut jouer un rôle de leader dans ce processus de reconstruction du Venezuela, de reconstruction de sa démocratie, notamment sur le plan humanitaire, un domaine où la France a tenu un rôle très important dans d'autres parties du monde. Et je crois que le 10 janvier, une nouvelle ère a commencé pour le Venezuela. C'est un processus qui va prendre du temps, le temps qu'il faudra, parce que nous sommes convaincus que nous sommes en train de l'emporter de façon démocratique, pacifique et en accord avec la Constitution. Nous avons besoin que l'Union européenne fasse pression sur ce régime, sur le plan diplomatique. La pression des sanctions est très importante. Ces sanctions sont individuelles, elles touchent les corrompus, ceux qui violent les droits de l'homme. Cela n'affecte pas la population vénézuélienne.
Les sanctions sont individuelles. A los corruptos y violadores de derechos humanos no afectan al pueblo de Venezuela.
L'unique chose qui affecte la population, c'est chaque jour passé par le dictateur Nicolas Maduro au pouvoir, quand des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées subissent ce fléau, cette crise humanitaire que nous connaissons tous.
Isadora Zubillaga, envoyée spéciale de Juan Guaido en France, interrogée par Andreina Flores et Marie Normand. La journée internationale des droits des femmes célébrée aujourd'hui un peu partout dans le monde. Dans la petite ville amazonienne de Tena, en Équateur, l'ONG Patou Solidarité a ouvert en avril dernier une maison d'accueil pour femmes victimes de violences. Originaire de Nantes, Myriam Vieillard en est la directrice. Notre correspondant en Équateur, Eric Sanson, s'est rendu à Tena pour rencontrer ces femmes.
Comme de nombreux indigènes, Patricia Chiwan a été mariée très jeune, dès 16 ans. Elle a été malheureuse, tout de suite, battue par un époux jaloux.
Mon mari me maltraitait beaucoup. Quand il me frappait, je prenais mes enfants pour fuir dans la forêt. On restait là car on avait peur qu'il nous frappe encore. On ne pouvait pas s'approcher car il était très agressif.
Cette réalité dramatique a rapidement marqué Myriam Vieillard.
Les femmes avec des yeux au beurre noir, ou alors qui sont absentes parce qu'elles sont à l'hôpital, ou celles qui disparaissent. J'ai une jeune femme très très jeune qui a tenté de se suicider à cause des viols permanents de son mari et qui s'est retrouvée hémiplégique.
Jeune femme timide, ignorante de ses droits, menacée de mort en permanence, Patricia pendant longtemps n'a pas dénoncé son mari, même quand elle a connu Myriam Vieillard.
Je disais à Myriam, j'ai des enfants, si je porte plainte et que je m'en vais, où est-ce que je vais vivre? Je n'ai pas de maison où m'installer avec mes enfants, je ne vais pas pouvoir chercher du travail. Et finalement, tu retournes vivre chez ton agresseur parce que tu n'as pas d'endroit où aller.
Faute de maison d'accueil, de nombreuses femmes désespérées dans cette région ont été mises en danger.
Ils arrivent à un moment où il y a un désespoir tellement grand, parce qu'ils les mettent aussi à la porte. Quand ils sont bourrés, qu'ils rentrent, ils tapent dessus, ils les mettent dehors, avec leurs enfants, avec des tout-petits. Hein. Et puis, elles savent pas où dormir, donc elles vont sur les toits, sous la pluie, peu importe. Donc, il y a un moment, oui, elles désespèrent tellement qu'elles se suicident. Et ces suicides-là, c'est pour moi, ce sont des fémicides.
Depuis avril dernier, une maison discrète dotée de 3 grandes chambres accueille des femmes victimes de violences à Ténès. Elles sont actuellement en 3 avec 8 enfants. Pour les protéger, l'endroit est maintenu secret autant que faire se peut, même si parfois c'est la police elle-même qui amène sur place le mari violent au mépris de tous les protocoles de sécurité. Cette maison s'appelle Huasipani et Aleida Alvarado est sa première coordinatrice.
Huasipani est un mot quichua. Huasi veut dire maison. Pani veut dire sœur, la maison des sœurs. Nous avons choisi ce nom pour symboliser que cette maison est un endroit fraternel et solidaire.
Elvie Alvarado joue ici le rôle de gouvernante pour les nouvelles arrivées, victimes d'une violence qu'elle-même a bien connue.
Grâce à cette maison d'accueil, des femmes sont en paix, sans cris et sans coups. Nous, aujourd'hui, en tant que gouvernante, nous venons pour les aider. Nous sommes passés par là, nous les comprenons et nous pouvons leur dire qu'elles doivent être fortes et courageuses et qu'il est temps de porter plainte contre leurs agresseurs.
Pour les aider, la maison d'accueil met à leur disposition gratuitement un avocat et des psychologues comme Cristina Garcia.
Elles ont construit leur conception de l'amour sur l'idée « je te frappe parce que je t'aime ». Petites, elles ont subi des corrections en guise d'éducation. Si tu as grandi en écoutant que la femme doit rester à la maison, eh bien c'est la façon dont tu vas concevoir la vie. Ces visions culturelles sont les plus difficiles à combattre.
Faire comprendre que la vie n'est pas que souffrance, aider ces femmes à repartir de bon pied, c'est l'objectif de l'association Patou Solidarité, qui cherche également à s'attaquer à une façon de voir la vie qui touche également des femmes éduquées. Exemple, Marlène Cabrera, spécialiste de la défense des droits de la femme.
Quand j'ai commencé à sortir avec mon partenaire, dans mon travail, j'ai eu une invitation pour Noël. Et je ne savais pas comment lui dire que j'allais sortir et aller danser. Alors je lui ai dit, j'aimerais que tu me donnes l'autorisation. Et là, il a changé ma vie. Il m'a dit, Marlène, excuse-moi, mais tu ne m'appartiens pas. Toi et moi, nous pouvons faire des choses différentes.
Le changement, même lent, est donc possible. Mais en attendant Athéna, les femmes battues ont besoin de toujours plus d'aide. Patou Solidarité recherche donc une maison plus grande en multipliant les initiatives pour que l'intendant suive. Eric Sanson, Athéna, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, la société reste marquée par les inégalités de genre et les violences à l'égard des femmes. Depuis plusieurs mois, le pays connaît un réveil citoyen avec une dénonciation continue de la corruption. Les femmes tentent aussi de faire entendre leur voix. Notre correspondante Amélie Baron a interrogé la féministe haïtienne Pascal Solage sur l'impact de ce contexte de revendication sur la cause féministe.
C'est la journée internationale des droits des femmes. En Haïti, la question du droit est malheureusement souvent abordée dans le sens négatif. Il y a une absence de l'état de droit. Comment aujourd'hui, avec le contexte que l'on a de lutte contre la corruption, peut-on placer justement le rôle des femmes et peut-être le droit des femmes dans tout ce contexte haïtien de difficulté d'accès à ces droits ?
Dans cette mouvance de bataille, de mouvement contre la corruption et l'impunité, les femmes sont présentes. Les femmes, elles ont une voix. Les femmes, elles participent, elles se mobilisent et elles essaient de s'en sortir aussi dans cet imbroglio de corruption et d'impunité. Donc, tu as beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui et beaucoup de femmes qui sont au devant de la scène en train de mener ce combat aussi contre la corruption. Et ça ne saurait être autrement parce qu'elles sont directement concernées et impactées aussi par la corruption. Et donc là, la question du droit. Aujourd'hui, nous sommes sur le dossier de la mairesse Nice Simon et ça caricature pratiquement la question de la corruption et de l'impunité dans la question de l'accès au droit.
justement pour rappeler donc Nissimon, qui est donc une mère d'une des principales villes d'Haïti, Tabar, qui a été violentée, qui a porté sur elle les marques de coups, qui a montré, qui a porté plainte ensuite, déjà montré qu'on est victime de violence et puis porté plainte. C'est une schématique nouvelle.
Surtout pour une femme connue, pour une personnalité publique, pour une femme en fonction ici en Haïti. C'est assez particulier en Haïti.
Et donc, elle accuse son conjoint. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce conjoint, il n'y a pas de procédure judiciaire en cours. On a l'impression que c'est une inertie. Donc, des autres femmes battues qui ne sont pas Nissimon pourraient se dire à quoi bon. Alors, plutôt garder le silence.
Alors, nous, les organisations qui accompagnons les femmes dans justement ce processus de violence, etc., c'est tous les jours au niveau des tribunaux, c'est tous les jours dans le système judiciaire que nous sommes confrontés justement à cette inertie, que nous sommes confrontés à ce mur de la corruption et de l'impunité. C'est qui porte plainte contre qui. Les droits des femmes aussi sont freinés par la question de la corruption et de l'impunité, la question de l'abus de pouvoir, la question du clientélisme, la question de l'argent aussi. Tout ça, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour freiner la question des droits des femmes, notamment dans le système judiciaire. Mais de manière globale et de manière générale, c'est tout un système, c'est toute une machine, justement, qui est menée par le patriarcat, qui est menée par la corruption, qui empêche que cette lutte pour les droits des femmes n'aboutisse. Et je pense que ce 8 mars, cette année, dans ce contexte de lutte contre la corruption, contre l'impunité, contre l'injustice sociale, contre ce système en général, pas seulement le système patriarcal, est pour moi l'endroit où les féministes, où les femmes, où les citoyennes doivent se battre aujourd'hui.
La féministe haïtienne Pascale Solage au micro d'Amélie Baron. Et tout de suite l'actualité ultramarine avec le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
En Martinique, le carnaval s'en est allé, mais les VHU, véhicules hors d'usage, sont eux hélas toujours bien présents.
Eh oui, en Martinique, on appelle ça des bradjacks. Ce sont de vieilles voitures, de très vieilles voitures, parfois tunées, coloriées, déguisées, extrêmement bruyantes. Bref, un spectacle typiquement carnavalesque. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que certains de ces véhicules sont ensuite purement et simplement abandonnés dans la nature ou sur le bord des routes. Guy Etienne.
C'est une constante. Chaque année, au lendemain du mercredi des cendres, nombre de bradjacks qui nous ont agressé les oreilles avec leurs détonations à l'échappement sont laissés à l'abandon sur la voie publique. Un délit environnemental que les municipalités condamnent. Maurice Fernet, chargé de la prévention du développement durable et de l'écologie urbaine pour la ville de Fort-de-France.
Chaque propriétaire de véhicule a l'obligation de procéder à sa destruction, à son traitement lorsque le véhicule est en fin de vie, notamment lorsque le carnaval est terminé.
De son côté, le site environnemental Arrêtez-ça rappelle qu'il existe des solutions afin d'éliminer ces véhicules abandonnés et de retrouver leurs propriétaires. Un site que vous pouvez également alerter en postant des photos de VHU près de chez vous. Stéphanie Didier, la déléguée générale d'Entreprise Environnement.
Il y a un stock de plus de 20 000 VHU qui sont abandonnés en Martinique et puis chaque jour, il y en a des nouveaux qui sont abandonnés. Donc ça, on le voit sur l'application Arrêtez-ça que nous avons lancée, qui permet aux particuliers de dénoncer les dépôts sauvages en postant des photos. Et ensuite, à chaque photo qui est postée, il y a un email qui est envoyé à la mairie qui est concernée, soit en appelant directement la police municipale de la mairie concernée.
Voilà, il faut signaler qu'il y a 5 centres agréés de destruction de véhicules hors d'usage en Martinique. On reste dans le domaine des déchets, mais en Guadeloupe, cette fois-ci avec le Conseil régional qui a réaffirmé hier après-midi son objectif de zéro déchet en 2035. Ronan Poney.
Il faut dire qu'à l'heure actuelle, la Guadeloupe est à l'âge de la préhistoire. On enfouit 75% des 400 000 tonnes de déchets, à peine mieux qu'un pays du tiers-monde. De plus, le service est très cher, 179 euros par habitant, ce qui ne veut pas dire par contribuable. C'est en tout cas entre 6 et 10 fois plus cher qu'en métropole. Alors, qui financera ce futur plan ? On ne sait pas trop. La région Guadeloupe, l'Europe qui donnera moins après le Brexit, les communautés de communes qui ont en charge le ramassage. Constat, après cette demi-journée de débat dans l'hémicycle, il n'y a pas de grand plan de traitement des ordures ménagères imposé concrètement. Et tout cela avait vraiment un parfum de poésie et de science-fiction.
Bon après-midi, un bon week-end, à lundi.
Vous aussi, Benoît, à lundi. Merci d'écouter RFI. Je vous signale, pour ceux qui nous écoutent en Haïti, que vous avez un changement d'heure ce week-end. Dimanche matin, il sera 3h à 2h du matin, changement d'heure d'été. Donc, vous pourrez nous entendre à partir de lundi à 9h10 au lieu de 8h10. Très, très bon week-end à tous.